Hello et bienvenue sur le podcast Les Matchs de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti pour ce nouveau numéro de Les Matchs de ma vie, avec moi Darren Tulette et notre invité aujourd'hui qui est...
Anthony Knokar.
Effectivement, ravi de t'avoir avec nous, Anthony.
Merci, merci à vous.
Aujourd'hui, joueur de Valenciennes en Ligue 2 avec une demi-finale de Coupe de France à venir contre Lyon. Tu as lancé ta carrière professionnelle avec Guingamp avant de quitter les Bretons pour aller jouer chez les Grands Bretons. Des moments inoubliables avec Leicester City puis Brighton & Hove Albion, club avec lequel tu montes en Premier League en 2017 après une saison brillante. Fulham et un passage en Grèce ont suivi avant de revenir dans le nord de la France et retrouver les terrains de tes débuts en Ligue 2. Difficile de ne choisir que 5 matchs, Anthony, peut-être.
Ouais, sûrement, du fait que c'est quand même déjà une longue carrière, mais je pense que j'ai choisi les 5 plus marquants de ma carrière. Et voilà, je pense que c'est les 5 ouais, qui ont une histoire avec ma carrière. Ouais.
Effectivement, on va voir ça tout de suite. C'est parti pour les matchs de ma vie, les matchs de la vie d'Anthony Knokart. Match numéro 1, Anthony. On est le 22 septembre 2010 au stade du Roudourou pour un 16e de finale de la Coupe de la Ligue entre ton club Guingamp, qui évolue à l'époque en national, et le Stade Rennais. Pourquoi tu choisis ce match-là?
Bah parce que c'est un match, pour moi, je pense, qui a lancé ma carrière, dans le sens où j'étais très, très jeune. Je venais d'intégrer le groupe pro cette saison-là. Et bien évidemment, ce qui est normal, je ne jouais pas trop depuis le début de saison. Et ce match-là, j'ai l'impression qu'il a lancé, en tout cas, mon début de carrière à Guingamp. Qui a tapé aussi dans l'œil du coach, qui était Jocelyn Gourvennec. Et le plus marrant, c'est que ce match-là, j'ai commencé sur le banc et il y a l'ailier qui se blesse au bout de 30 minutes. Et le coach m'appelle et me dit « c'est toi qui rentres ». Donc tout foufou, j'étais super heureux et excité. Parce que c'était la première fois de ma carrière, en fait, que j'allais jouer contre une Ligue 1. Et j'étais très jeune, je venais de signer pro. Donc voilà, j'étais plus qu'excité. Et sur mes tout premiers ballons, je pense, si ce n'est pas le premier, je marque de la tête en plus.
En plus de la tête?
Je marque de la tête. Je pense qu'on mène 1-0 ou j'égalise, mais un moment important du match, en fait.
C'est ça. Ouais, c'était le but d'un partout, effectivement.
Ouais, exactement. Ouais. Ben voilà, ouais. Donc j'égalise et là, le stade explose et on sent qu'on peut faire quelque chose. Et au final, on gagne 3-1. Donc... C'était une soirée réussie, une soirée merveilleuse pour moi. Il y avait bien sûr toute ma famille dans les tribunes. Donc non, c'était un moment inoubliable.
Marque de la tête quand même.
En plus, c'était la grosse équipe de Rennes. Il y avait M. Villa, tout ça à l'époque. Ouais. Les joueurs du moment qu'ils étaient vraiment très forts. Il y a M. Villa, je m'en rappelle, il était déjà en équipe de France et tout ça. Donc pour moi, c'était quelque chose de vraiment flatteur et... Et voilà, j'ai jamais oublié ce but-là, il était important pour
moi. Marqué, depuis, tu as marqué un autre but de la tête ou pas? Ça reste le seul.
J'en ai mis quelques-uns quand même.
C'était sur un centre, sur un centre de Thibaut Giresse.
Ouais, c'est ça, exactement.
Donc, probablement les deux plus petits dans l'équipe.
Ouais, exactement.
Ce but de la tête, ouais, Anthony. Ouais. Formidable. Effectivement, Jocelyn Gourvennec, ton entraîneur. Tu as 19 ans. Tout foufou, tu disais, ça c'est par rapport à ta personnalité aussi. Tu as toujours été ce petit plein d'énergie et tout ça. Quand tu avais 19 ans, j'imagine, parce que aujourd'hui je vois comment tu es, je te connais depuis, je t'ai suivi depuis quelques années. Tu fais toujours plus jeune que tu es. Donc à 19 ans, peut-être que tu faisais 12 ans, je ne sais pas.
Comment tu entres? J'avais une coupe de cheveux un peu plus différente maintenant. C'est vrai que j'étais tout sauf mature, en fait. Et puis, c'est ça, les beaux moments d'une carrière, en fait. C'est que je me rends compte qu'à 19 ans, quand je suis rentré, que je puisse marquer contre Rennes comme ça, contre une Ligue 1. Non, c'est des moments extraordinaires. Et c'est pour ça que j'ai dit que ça m'a marqué, puisque ce but-là, je m'en rappelle encore de l'action dans ma tête maintenant, comme si c'était
bien.
Hier.
Oui.
Alors qu'il y a des buts, peut-être, que j'ai dû oublier. Mais c'est vrai que c'était un moment extraordinaire. Ouais.
C'était début pro, effectivement, avec Guingamp. Tu vas être promu en D2 avec les Bretons. Appelé en espoir aussi. Tu marques là aussi sur ton début. C'était le 17, 10 septembre 2012, contre le Chili, ouais. 2-1, dans l'équipe, parce que tu vois, j'ai préparé un petit peu. Ouais, un beau but ouais. en plus. Il y avait Griezmann, il y avait Varane, il y avait Ben Yedder, il y avait Lacazette. Raconte-moi ouais. un petit peu tout ça.
Non, c'est, encore une fois, je vous dis, c'est une fierté. Je marchais sur l'eau, entre guillemets. Je savais pas ce qui m'arrivait. Vous voyez, à ce moment-là, vous réalisez pas trop. Vous êtes dedans. Tout ce qui vous importe, c'est de jouer au foot, c'est de marquer des buts, de vous faire briller vous-même. Et voilà, j'étais déterminé. J'avais qu'une envie, c'était de montrer ce que je pouvais faire sur le terrain.
De tout casser.
Exactement. Et c'était une période pour moi extraordinaire et des moments inoubliables. Après, le seul regret que j'ai dans ma carrière, c'est de ne pas avoir fait l'Euro cette année-là avec les espoirs. Malheureusement, on s'est fait éliminer au barrage. Mais voilà, ça restera une épopée pour moi, inoubliable aussi, cette équipe de France.
Vous étiez bien, effectivement, avec les joueurs que je viens de citer. C'est une belle génération, effectivement. Ce maillot de l'équipe de France, là, quand tu as été en espoir, tu as marqué ce but, tu l'as encore quelque part ?
Oui, je l'ai encore.
Ouais.
Il y a la maison, oui.
Des bons souvenirs. Comment ça se fait que toi, Anthony, né le 20 novembre 1991 à Roubaix, tu commences à jouer très, très jeune, j'imagine, ouais, dans cette région-là. Comment ça se fait que tu ne commences pas avec un club du coin et tu commences à Guingamp ?
Non, mais j'ai commencé à Lens. Enfin, tout petit, j'ai été recruté par Lens de 8 ans à 13 ans. Et après, à 13 ans, ils m'ont fermé la porte et ils m'ont dit que j'étais trop petit et que je ne passerais pas, quoi. Donc voilà, j'ai pensé à voir autre chose. Ça a été dur au début, c'est mon père qui m'a sauvé à continuer parce que je voulais tout arrêter et voilà, il m'a poussé à continuer, il m'a dit avec les qualités que tu as, il est hors de question que je te laisse pouvoir arrêter et on est parti en Belgique à Moucron, comme je suis de la région et c'est vraiment à 15 minutes d'où j'habite. Voilà, il m'a relancé là-bas et j'ai fait 2 ans à Moucron, ça s'est super bien passé. Mais après, mon père aussi pensait que c'était mieux pour ma formation de retourner en France. Donc à l'âge de 15 ans, je suis reparti dans un club à côté de Lille qui s'appelle L'Équin. Et j'ai fait 1 an de moins de 17 DH, donc c'est une division en dessous de la nationaux en fait chez les jeunes et on est monté. Et quand on est monté, en fait, ma première saison en 18 nationaux, en fait, j'alternais avec... je faisais une mi-temps le samedi avec la CFA 2 de L'Équin, qui jouait sa survie pour pas descendre. Et tout le match le lendemain en 18 nationaux, en fait. Et c'est de là que Guingamp est venu me récupérer, quoi.
D'accord.
Et voilà, j'avais fait une super saison. Et c'était une bonne saison aussi, ça c'est des bons moments aussi, même si c'est un petit club, mais ça m'a marqué parce que on a réussi à se sauver dans les deux compétitions avec les moins de 18 et la CFA 2. Donc j'étais heureux pour ce club et voilà, c'était une bonne saison. Mais après, bien évidemment, quand Guingamp y est venu, j'ai pas hésité et voilà, ma carrière elle s'est lancée là-bas.
Oui, lancée en Bretagne, ouais. Effectivement. Et pas dans le Nord, c'est fou quand on pense... Forcément, Lens, il peut y avoir des regrets. Mais heureusement qu'on n'a pas dit à Xavi, à Iniesta, vous êtes trop petit. Hein, à Lionel
Exactement,
Messi, on aurait pu dire, oh, non, désolé, t'es trop petit.
C'est toujours ce que j'ai dit. Après, est-ce que là... Vous voyez, j'ai toujours dit dans le football, je pense que jusqu'au niveau pro, je pense qu'il y a peut-être des fois des entraîneurs qui ne devraient pas être à leur place. Ce n'est pas des entraîneurs assez doués, ou pas doués, mais je dirais plus avec de connaissances de football qui s'orientent vers les bons profils de joueurs. Et voilà, je pense qu'il y a certaines formations en France qui misent plus sur le gabarit et le physique que la technique. Et tout ce que tout autre qu'un joueur pourrait faire, mais voilà, il n'y a pas de regret, il y a pas de rancune, ça fait partie du football. Je pense que je dois pas avoir été le dernier à qui c'est arrivé, mais voilà, moi je pense qu'avec la force mentale et comment mon père m'a éduqué, je pense que ça m'a aidé à être plus fort et voilà, à me relever de tout en fait.
Tu parles de ton papa, un petit mot sur ton enfance. Alors tu grandis, il y a qui à la maison?
Il y a mes deux parents, j'ai 5 frères aussi, donc ouais, on était une famille nombreuse, mais ouais, ils m'ont toujours soutenu. je pense que dans une carrière de footballeur, en tout cas, c'est important d'avoir un soutien familial. Et moi, j'ai eu la chance d'en avoir un super à ce niveau-là. Donc c'est
vrai. Tout le monde jouait au foot?
Tout le monde, ouais. Après, pas tout le monde avait mes qualités, malheureusement. Mais j'ai un frère qui est décédé, ouais. Il y avait des qualités hors normes. Et malheureusement, voilà, la vie, elle en a décidé autrement. Mais j'avais aussi un petit frère aussi qui aurait pu réussir. Mais bon, voilà. Il préférait la cuisine. Il préférait bien manger.
Ça joue entre vous, vous jouiez alors?
Ouais, non, ouais, la maison, c'était toujours du football. Garçons, hein. En plus, mon père, c'était un fanatique de football, donc. Ouais. Ma mère, la pauvre, elle a mangé que du foot toute sa vie. À la télé, c'était du foot. Les discussions à table, c'était du foot. Non, c'était, voilà, on a grandi dans ça. Et voilà, c'est ce qui fait aussi peut-être que j'ai été un passionné. Et peut-être que j'ai pas eu trop le choix non plus, en fait. C'était en nous. Et voilà, c'est une famille de footballeurs.
Merci, maman, pour sa patience. Supporter tous ces mecs autour de la table qui parlaient foot, qui regardaient foot non-stop. On va revenir sur ton papa tout à l'heure. Match numéro 2, désormais. Nous sommes le 12 mai 2013, parce qu'après des débuts réussis à Guingamp, ouais, comme j'ai dit au début, direction l'Angleterre. Maintenant, tu joues pour Leicester, ouais, et on va parler de ce match en 2013 à Vicarage Road, le stade de Watford. C'est un barrage demi-finale retour, c'est-à-dire que le club qui va se qualifier va aller jouer un match à Wembley pour monter en Premier League. Pourquoi tu as choisi ce match-là? Parce que franchement, Anthony, c'est probablement l'un des moments le plus compliqués de ta carrière. Raconte un petit peu ce qui s'est passé ce jour-là.
Pour deux choses. Ouais. La première, pour prouver que le football peut être fou dans les deux sens, et très rapidement. La semaine de cette date du match retour, donc demi-finale de retour des play-offs pour se qualifier en finale pour la montée en Première Ligue, je qualifie, on est bien sûr 11 sur le terrain et toute une équipe, mais ouais, on joue le match à Nottingham Forest, donc on est 7e à ce moment-là, et Forest est 6e, sachant que Forest-Leicester, c'est un gros derby, donc le match allait être très chaud, et Forest est 6e et nous 7e, c'est le dernier match de la saison, et il faut absolument qu'on gagne à Forest pour pouvoir accéder aux play-offs, puisqu'on repasserait devant Forest. Et on accéderait aux play-offs en accrochant la 6e place. Et il s'avère que ce match-là, je marque à la 94e minute. Et je qualifie Leicester pour les play-offs. Et comme quoi, dans le football, tout va vite. Du mercredi d'après, le dernier match du championnat, on joue le match aller contre Watford à domicile. Je fais une passe décisive, donc ça se passe bien, on gagne 1-0. Et on va à Watford, on perd 2-1 pendant le match. Et il y a un pénalty sur moi, donc à la 97e minute.
Donc jusqu'à ce moment-là, tu es le héros de la situation.
Exactement. Les gens, ils se disent, oh, mais c'est pas possible. Il nous qualifie au play-off. C'est ça. Il obtient un pénalty pour nous qualifier en finale.
On peut le dire, pénalty.
Ouais, non, franchement, je pense pas qu'il y a faute. Après, on regarde bien, il me touche. C'est vrai qu'il me touche, mais c'est pas assez pour moi. Je reconnais très bien qu'il y a, c'est pas assez.
Ouais, voilà. Mais aujourd'hui, voilà.
C'est pas assez, mais l'arbitre, il tombe dans le piège.
Il y a pénalty.
Et là, je sais pas, dans l'enchaînement, l'adrénaline, tout ce qui se passe, l'événement à ce moment-là, je vois personne qui prend le ballon, donc je cours dessus, en fait. Je suis heureux et fier de pouvoir tirer ce penalty.
Oui, t'es chaud.
Ouais, voilà, exactement.
Ça va être toi qui va tirer.
Voilà, je me vois être le héros et qualifier Leicester en finale. Alors, je pense qu'il y en a peut-être, je dirais pas des millions, mais des milliers de gens qui ont vu la vidéo, c'est sûr, puisqu'elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle s'arrêtera jamais de toute manière. Mais si vous regardez bien sur la vidéo, il y a un moment, je lance un regard à droite exprès, en fait, pour me dire que, enfin, essayer de convaincre Almunia de plonger de ce côté-là. Et au moment, il s'avère qu'au moment où je m'élance pour tirer, je me dis dans la tête, tire au milieu, en fait, je change à la dernière seconde. Exactement, chose qu'il ne faut jamais faire parce que c'est vraiment... Et ça, c'était un conseil de mon père en plus. Il m'a toujours dit, sur un pénalty, tu ne changes jamais ton idée. Et bref, ça, je ne sais pas, peut-être la pression du match, tout ce qui se passait. Je me dis, tir au milieu, il sera obligé de plonger en fonction... Voilà, enfin, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. Oui. Et je tire au milieu, il arrive à la sauver. Elle revient sur moi, je retire, il refait un arrêt. Et là, il se passe ce qui ne se passera peut-être plus jamais dans le foot, en fait. Contre-attaque, et il marque sur la contre-attaque. Et là, je ne sais pas, dans ma tête, pendant 3-4 jours, ça trottait. Je me disais, pourquoi tu n'as pas fait... Et puis, tu refais le film en entier dans ta tête.
Oui, bien sûr.
Et ça ne se terminait jamais. Mais ça, c'était la première chose, en fait. Comme quoi, le football, des fois, d'une semaine à l'autre, d'une année à l'autre, de plein de choses, ça peut être... Tu peux être le héros et le lendemain, on peut te mettre au plus bas. Mais la deuxième chose aussi, pourquoi la deuxième raison aussi pourquoi j'ai choisi ce match, c'est parce que ça m'a, je pense, encore plus servi, encore plus de leçons pour être encore plus fort mentalement et voilà, et revenir plus fort et faire encore une plus belle carrière que comment je l'avais lancé, en fait.
Donc un moment d'extrême douleur, mais en quelque sorte que
exactement,
tu as su utiliser
pour rebondir. Voilà, ça m'a boosté encore plus pour me dire, écoute, c'était à partir de cet été, tu dois travailler encore plus et voilà, et bosser comme un chien encore plus que ce que tu faisais, et ça a marché puisque l'année d'après on monte avec Leicester, donc j'avais fait une très bonne saison, donc voilà, je pense que ça m'a forgé un caractère encore plus fort que ce que j'avais, et j'en avais déjà un gros, mais je pense que ça m'a aidé à être encore plus fort que je pouvais être, et surtout aussi à force de revoir la vidéo, je voyais des Anglais, quand je retournais à Watford, c'était entre guillemets un enfer, je me faisais insulter tout le match, mais ça m'a aidé à revenir plus fort.
Mais c'est vrai que je me souviens très bien, parce que le match a été diffusé en France, ouais, sur Bein en plus, et cette séquence était juste hallucinante, parce que, comme tu dis, de héros à zéro, c'est
exactement terrible,
parce que combien de fois on peut rater un penalty comme ça, derrière, il n'y a jamais rien,
ouais, donc
c'est pas aussi grave que ça, mais une fois en 10 000, en 100 000, je sais pas, il y a un contre derrière qui termine avec un but. Donc, dans ta tête, effectivement, mais tu dois chercher un trou.
Mais le pire, c'est que c'est là que je dis la folie de la contre-attaque, en fait, parce que combien de pénaltys on voit dans une saison, peut-être cette année en Ligue 1, combien de fois il y a eu une contre-attaque et but derrière, ça arrive presque jamais. Ça arrive presque jamais, si on regarde bien, et c'est arrivé ce jour-là.
Ouais.
Sur moi, et voilà, et comme j'ai dit, ça m'a forgé un caractère, j'avais pas le choix d'être fort, et voilà, et je pense que d'autres peut-être auraient jamais réussi à accuser le coup, et ils se seraient perdus à cause de ça, mais j'ai eu la chance de pouvoir rebondir. Ouais.
Et comme tu dis, la saison après Leicester est promu avec toi,
ouais,
qui brille, et Leicester est en Premier League, mais pour le match numéro 3, Anthony, on va passer... Maintenant, des renards,
ouais,
de Leicester, les Foxes, aux mouettes, les Seagulls de Brighton and Hove Albion. Parce que tu as quitté Leicester pour aller à Brighton,
ouais,
où forcément il fait meilleur, sur la côte sud d'Angleterre. Je vous ai dit que je viens de Brighton. On est maintenant le 17 avril 2017. Brighton reçoit Wigan Athletic. Une victoire et les Seagulls montent en Premier League pour seulement la deuxième fois dans l'histoire du club. Brighton 2, ouais. Wigan 1. Raconte-nous ce match formidable.
Bah, c'est plus des émotions que le match en lui-même, en fait. C'est tout ce qui se passait durant la saison, les événements qu'il y a eu, l'état d'esprit qu'il y avait dans le groupe, comment le groupe vivait, comment je voulais tellement monté avec eux que ça a été un jour pour moi inoubliable et probablement le plus beau de ma carrière. Je pense que si j'ai un jour à retenir dans ma carrière, ça serait celui-là. Cette montée avec Brighton je sais même pas comment l'expliquer, mais du moment du coup de sifflet final aux 3 semaines d'affilée qu'on suivit, c'était... inoubliable. Et franchement, ça restera gravé dans ma mémoire. Et ce match-là, ouais, je pense qu'on mène 1-0. Si mes souvenirs sont bons, ils reviennent à 1 en plus. Et on n'a pas le choix, On sait qu'avec une victoire, on envoie le club en Première Ligue. Parce que c'est vrai qu'ils avaient déjà été en Division 1, mais jamais en Première Ligue depuis que la Première Ligue est revenue. C'est fait surnommer la Première Ligue.
C'est ça, Brighton était en D1
voilà,
en Angleterre de 1979 jusqu'à 1983.
Voilà, exactement.
J'ai bien placé pour le savoir,
très
parce
bien.
Que j'y
étais. Vous êtes un bon supporter.
Et donc ce match-là, oui, vous gagnez 2-1 contre Wigan.
Donc on gagne 2-1.
Deux passes décisives d'un certain Français qui est en face de moi actuellement. Et donc, à la fin du match, la pelouse envahit.
Nous, dans le vestiaire, c'est un carnaval. Mais un carnaval, on fait boire le coach alors qu'il ne voulait pas, nous, qu'on fasse la fête. Parce qu'en fait, il fallait déjà attendre qu'Huddersfield ne gagne pas ce jour-là. Huddersfield, sachant qu'ils jouaient à 5h30, donc leur match, ils finissaient 30 minutes après nous. Donc, c'était même pas encore fini. Ils menaient 1-0 pendant qu'on commençait déjà à faire la fête, alors qu'on n'était même pas sûr de monter. Allez, on va dire qu'en fait, on était presque sûr au niveau des points, mais mathématiquement, on ne l'était pas avec le goal à virage, en fait. On avait, je pense, je vais dire une connerie, 17 buts d'avance et il restait 3 matchs à jouer après ça. Mais pour nous, c'était fait.
Oui.
Et le coach, il pète un plomb, il nous voit en train de boire des bières, du champagne. Et il pète un plomb et d'un coup, je sais pas pourquoi, il voit qu'il peut plus rien dire en fait. Le président, il arrive en folie, tout le monde y saute et le président, il dit allez, tout le monde va en haut, tout le monde est sur le terrain en fait, donc tous les joueurs vont en haut et on commence à chanter des chants avec les. Donc le coach, il s'est dit bon ben écoute, autant faire la fête maintenant. Donc on a fait boire le coach, on monte dans la tribune en fait et là c'est des moments. Ça, je pense que ça a pris une bonne heure et demie. Je pense, nous, dans la tribune, et les supporters en train de chanter sur le terrain. C'était inoubliable. Et de là, donc les joueurs, on se lave vite et tout. On prend notre douche et tout, on part dans le Player Lounge. Et au moment où tous les joueurs arrivent dans le Player Lounge, il y a Derby, ce jour-là, Derby qui égalise contre Huddersfield. Donc, à ce moment-là, mathématiquement, on est en train de monter. Et au moment où ils marquent, les plafonds, c'est des genres, vous voyez, des genres de faux plafonds et on explose des bières dans le plafond, il y a tous les trucs qui tombent à terre, il y a de la bière partout, ça part en n'importe quoi. Et il restait 4 minutes à jouer en fait, et on était 4 minutes tous stressés, en train tous de regarder avec les familles, les femmes et tout. Et alors là, le moment que ce match-là a été terminé, que ça a fini sur un nul, qu'on était mathématiquement en Première Ligue, je pense que c'est... Ça a été inoubliable. De là, on a pris un train avec tous les supporters parce qu'en fait, juste derrière le Amex Stadium, derrière le stade de Brighton, il y a une gare en fait qui mène jusqu'à la ville de Brighton. Et on s'est tous retrouvés dans le train avec les supporters. Et de là, je ne suis pas rentré chez moi jusqu'au lendemain 9h en fait. Jusque le lendemain 9h du matin. Et voilà, c'était...
Il y a des images, chers auditeurs. Vous pouvez aller chercher sur Internet. Ouais. D'abord, dans les tribunes, Anthony, topless, là, avec le maillot, je ne sais pas où il est, en short, en train de harceler la foule et mener les chants. Et après, effectivement, parce qu'il y a des supporters qui ont filmé ça, dans le train, il y a tous les joueurs en train de chanter avec les supporters. Et puis donc, ça se termine en ville avec... Une nuit blanche.
Je vous dis, il n'y a aucun joueur qui est rentré jusqu'au lendemain. Et c'était des moments inoubliables. Le président avait réservé un pub typique anglais pour nous, les joueurs et les familles et tout, dans le centre de Brighton. Et du coup, vous imaginez bien qu'il y a des supporters qui ont réussi à s'incruster. Et c'est nous, les joueurs, qui les laissaient. Comme ça, il y avait une ambiance extraordinaire. Et ce soir-là, il y avait un DJ et puis il mettait des musiques typiques anglaises et c'était inoubliable.
Et cette saison-là, peut-être la plus réussie aussi au niveau des chiffres, je rappelle aux auditeurs, 15 buts en 45 matchs. Tu as été élu joueur de l'année du Championship, donc de la Ligue 2 en Angleterre, par tes pairs.
Ouais.
Déjà, un joueur étranger qui gagne, voté par la plupart des Anglais, ce n'est pas donné. Donc cette saison-là, tu étais, je ne sais pas ce qui s'est passé, tu étais...
Non, j'étais sur un nuage, parce que je pense que j'avais aussi la revanche du décès de mon père, peut-être, ça m'a tellement marqué, et ça m'a peut-être donné une force, en fait, que même moi, je ne me reconnaissais pas sur le terrain, en fait, je prenais le ballon, j'éliminais 4 joueurs, enfin, c'était comme ça tous les matchs, et puis j'ai été décisif presque à chaque match, en fait, parce que je fais 15 passes décisives et 15 buts, pardon, et 9 passes décisives, mais je pense que tout était étalé presque en un but, une passe décisive sur chaque match, donc j'ai été décisif presque à, je ne sais pas sur combien de matchs, mais ouais, c'était une saison vraiment inoubliable.
Et c'est vrai que c'était exceptionnel pour le club et pour toi, très particulier, parce que, comme tu viens de dire, tu avais perdu ton papa lors de cette saison-là. Et je sais qu'à quel point vous étiez proche, il était là d'un énorme soutien à presque tous les matchs, en faisant des allers-retours entre l'Angleterre et la France. Si tu veux bien, je sais que c'est sensible, cette histoire, mais j'aimerais bien que tu racontes aux auditeurs qui ne connaissent pas l'histoire de ce qui s'est passé le jour des obsèques en France.
Ça aussi, c'est ce que je dis, c'est une saison vraiment inoubliable. En fait, donc mon père, il décède, mais vraiment brutalement, en fait, on ne s'y attendait pas du tout. D'ailleurs, une semaine avant qu'il est décédé, il était encore au Amex en train de regarder le match contre Wolves, contre Wolverhampton, et il se plaignait en fait que ça allait pas, il arrivait plus des problèmes de respiration et tout ça, donc on l'a renvoyé en France en fait pour qu'il fasse des examens, et voilà, il a été diagnostiqué d'un cancer, et il est parti une semaine après, donc du coup les obsèques étaient, allez, on va dire presque 2 semaines après, et le club en fait, le coach bien sûr, il prenait des nouvelles de moi chaque jour et tout pour demander si ça allait, et il me disait bien sûr que je prenais le temps nécessaire que je voulais moi pour pouvoir revenir en fait. Et le jour des obsèques, ce jour-là, je m'en rappellerai toute ma vie, puisque il faisait très très froid en fait, et je suis arrivé qu'en veste de costume et tout, et j'avais pas pris de manteau. J'étais tellement déboussolé et tout. Et l'église en fait était à peut-être 2-3 minutes de chez moi, de chez mes parents où ils vivaient à pied en fait. Donc je dis à ma mère, écoute, je vais repartir chercher un manteau quand même, il fait très froid et tout, toute la cérémonie comme ça va être long. Je dis, je vais rechercher mon manteau. Et au moment en fait, où je vais chercher mon manteau et je reviens vers l'église, j'ai mon meilleur ami Camis qui vient me voir et il me dit, Anto, t'es au courant que le club, tout le club est présent et tout. Je dis, pardon, je dis non, je ne sais pas du tout et tout. Et donc, il vient me voir en fait au coin de l'église en fait. Donc au moment où je tourne pour arriver devant l'église, en fait, je vois un grand bus plaque anglaise et tout, nana. Et ils ont attendu en fait que je revenais devant l'église pour descendre tous du bus un par un. Et voilà, ils sont restés toute la cérémonie. Ils sont venus jusqu'à temps que tu mets le corps en fait dans le trou. Ils sont restés toute la matinée en fait. Et voilà, ça c'est des moments pour moi qui... Je pense qu'à part l'Angleterre, je pense qu'on ne pourrait pas voir nulle part d'autre et le respect qu'ils ont eu.
C'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que ce n'est pas comme si c'est dans la même ville. Ils ont pris un bateau pour venir.
Ils ont dormi à l'hôtel la veille. Ils ont dormi à l'hôtel la veille parce qu'ils étaient déjà là. Et voilà, c'est magnifique. Se sont tous déplacés. Ouais, non, je pense que c'est l'une des plus belles histoires qui s'est produite peut-être dans le football. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire.
Quand tu as vu tous tes coéquipiers et le coach et tout descendre du bus, ils sont fait tout ça pour être là, pour être d'un soutien pour toi et ta famille, l'émotion a dû être quelque chose d'extraordinaire.
Ouais, hein. J'ai craqué. J'arrivais plus à respirer. Même, je ne savais même pas comment les remercier et tout. C'est une image que j'aurai en moi pour toujours.
C'est vraiment émouvant de voir ça. Et ça dit long sur ce qu'il y avait comme ambiance dans ce club à ce moment-là et l'amour qu'il y avait pour toi et pour ton papa. Et c'est forcément aussi avec toute cette énergie que tu as fini la saison pour ton père et pour toi et pour le club. Et Brighton passe donc en Premier League grâce à tout ça. Ouais. Et donc, félicitations. Merci beaucoup pour ça. Et cette histoire est très touchante, effectivement. Vous écoutez, les amis. Les matchs de ma vie, allez, on se reprend. Le podcast de Beansport. notre invité raconte les 5 matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 d'Anthony Knockaert, le beau gosse de la Ligue 2 actuellement avec Valenciennes, après des années à briller dans le foot anglais. Pour le 4e match de ta liste, on reste avec Brighton. Tu joues désormais, Anthony, en Premier League et on te retrouve sur la pelouse de Crystal Palace, le rival historique de Brighton. Et que se passe-t-il ce jour-là?
C'est un match, je pense, très très important. C'est notre deuxième saison en Premier League d'affilée, je pense. Ouais, oui. C'est la deuxième saison. Et il nous faut des points à tout prix parce qu'on n'est pas bien. On est entre la zone de relégation. Enfin, on ne l'est pas, mais on est juste au bord. Et il nous faut des points. On ne gagnait plus depuis 9 matchs, je pense. Et on ne joue pas là, c'est à l'extérieur. Et voilà, pour nous, c'est un match qu'on ne peut pas perdre déjà pour nous. Et puis la fierté des joueurs et surtout des supporters. Et voilà, s'il y a bien un match, je pense que les supporters, ils ne voudraient pas perdre dans cette saison, c'est Palace. Et on les avait battus à domicile. Et on va chez eux et dans un moment où on n'a pas le choix de gagner, en fait. Et il me semble qu'on mène 1-0. Ouais, c'est Glenn Murray, je pense, qui ouvre la marque. Ils reviennent à 1, mais ce qui est marrant, c'est qu'au bout de 5 minutes, je mets un tampon à Milosevic, je pense, Milosevic, je ne sais plus son nom, le capitaine de Palace. Au bout de 5 minutes, en fait, on tacle en même temps et sans faire exprès, je laisse traîner mon pied, je pense que je dois prendre rouge. Je prends jaune pour le bonheur de tout le monde.
Supporter de Palace.
Ouais, voilà, exactement. Et à la, je sais plus, 80e minute peut-être, 81e, je reçois un ballon, en fait, une transversale de Dave Stevens. Et je me retrouve en 1 contre 1 avec Van Aanholt et j'arrive à l'éliminer. Et là, j'envoie un but, une frappe limpide en pleine lucarne. Elle tape la barre, elle rentre.
25 mètres.
C'est peut-être l'un des plus beaux buts de ma carrière en plus. Et le plus, celui qui voulait aussi le plus de meaning, qui avait le plus d'importance dans une carrière. Et ce but-là, sachez Darren qui nous a sauvés, parce qu'après ça, je ne pense pas qu'on ait gagné de match jusqu'à la fin de saison.
Oui,
et c'est les 3 points qui nous ont permis de nous sauver. Donc,
magnifique.
Voilà, c'était, je pense, pour moi, un moment marquant, parce que c'est ramener 3 points à ton équipe et en plus pour sauver le club, je pense que c'est quelque chose de très important et de touchant dans une carrière. Donc, et là, en plus, il fallait voir la réaction des supporters adverses. Alors, adverses qui me faisaient des doigts d'honneur, nos supporters à nous qui faisaient une fête pas possible dans les tribunes. Et c'était un moment extraordinaire
aussi. Ce but-là, je vous invite, chers auditeurs, à aller le retrouver, effectivement, de 25 mètres, brossé, lucarne, tout ce que vous voulez, magnifique. C'est parfait. Et c'est le but du mois pour l'émission Match of the Day en Angleterre, forcément. Cette victoire pour Brighton à Selhurst Park contre Crystal Palace et les supporters des Seagulls qui chantent « We've got Knockaert, Anthony Knockaert, I just don't think you understand, he only costs 2 mil, he's better than Ozil, we've got Anthony Knockaert ». Faites votre propre traduction. Des liens avec Brighton, donc il y en a pour toute la vie, même si tu n'y es plus. Tu gardes contact avec certains amis, des joueurs là-bas.
J'ai toujours contact avec certains joueurs. Et, ça restera pour moi le club le plus important de ma carrière. Et je pense celui où j'ai pris le plus de plaisir, c'est celui maintenant que je supporte le plus et celui que j'ai dans le cœur.
Et quand tu vois ce qu'ils sont devenus aussi, ces Seagulls.
C'est une fierté bien évidemment, je me dis que j'ai eu une grosse part de responsabilité dans cette montée, dans ce que le club est devenu, donc c'est une fierté. À chaque fois que je les regarde, ça me fait rappeler des moments inoubliables. Je les suis toujours. Je pense que les seuls matchs de Premier League que je regarde presque, à part vraiment les gros matchs, c'est Brighton. Peu importe contre qui ils jouent, si j'ai le temps et que je suis devant ma télé, je regarde Brighton. Ouais.
Et tu sauras toujours que tu peux retourner dans cette ville et tu n'auras jamais à payer une bière.
Non, exactement.
Du côté de Brighton. Allez, le dernier des 5 matchs qui ont le plus marqué ta vie, Anthony, c'est encore avec Brighton. C'est le 6 avril 2019. Brighton-Manchester City, demi-finale de la Coupe d'Angleterre, la FA Cup, à Wembley. Sacrée occasion, 80 000 personnes dans ce stade.
80 000 personnes, et puis pour nous, c'était un match... on va dire comme un... Vous voyez, comme un enfant qui rêve de devenir pro, ben moi, c'était de jouer des occasions comme ça, parce que je n'ai pas eu l'occasion, malheureusement, de faire une plus grande carrière et de jouer, par exemple, la Ligue des Champions ou des autres moments comme ça. Mais ce match-là, c'était un match extraordinaire. Quand tu joues le champion d'Angleterre, presque, on va dire, tous les ans depuis que Pep est arrivé, je pense que c'est un moment où tu sais que tu n'en auras pas deux dans ta carrière. Et la preuve, j'en ai pas eu deux en Angleterre après 12 ans de carrière là-bas. Donc voilà, je voulais le vivre à fond. Et je pense que c'est l'un des matchs aussi où il y avait le plus de membres de ma famille. Ils étaient presque une vingtaine, je pense. J'avais pris l'hôtel pour tout le monde. Ça m'était revenu à un bras, mais c'est sans rancune. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et en plus, j'arrive à être homme du match dans un match où on perd 1-0 et on est très proche de faire l'exploit. Et je fais un match en fait extraordinaire où je sais pas ce que j'avais, peut-être la rage en moi. Voilà, oui. il fallait que je fasse un gros match et j'ai réussi à le faire et je suis homme du match. Et malgré la défaite, je pense que ça restait. Un jour inoubliable. Il y a aussi après le match, l'après-match, on a quand même célébré avec les supporters et tout. Il y avait une fan zone et tout après le match à côté de Wembley, du stade. On a fait la fête avec les supporters et tout. Et c'est des moments franchement que je souhaite à tout footballeur, tous les jeunes qui essayent de faire une bonne carrière, de pouvoir vivre, parce que c'est des moments inoubliables. Et c'est, pour moi, ça reste aussi l'un des matchs phares de ma carrière.
Une demi-finale à Wembley devant Manchester City. 1-0 pour City. Gabriel Jesus, le buteur. Et Antinor Knockhart qui brille avec les Seagulls. C'était une demi-finale de coupe. Tiens, il y a une demi-finale de coupe qui t'attend avec Valenciennes qui va se déplacer pour jouer sur la pelouse de Lyon, ouais, dans quelques jours. Avec une saison compliquée pour Valenciennes. Évidemment, tu rêves de finale maintenant.
Maintenant, autant essayer d'aller jusqu'au bout. Ça va être dur, on va pas se le cacher. Ça va être difficile. Je pense que on est les gros outsiders, mais ça reste un match de football. Sachant que cette fois, comparé à la demi-finale d'Angleterre, il y a pas de prolongation. Donc ça peut être aussi un atout pour nous aussi, peut-être une chance de pouvoir espérer les tirs au but, on ne sait pas. Après, je dis ça, peut-être on gagnera dans le match et ce sera tout bénef. Mais voilà, faut jouer le coup à fond. Et c'est, comme j'ai dit aux joueurs, c'est un rêve de gosse, c'est un rêve d'enfant. Et voilà, vous aurez peut-être pu, les gars, croyez-moi, de deux occasions comme ça dans votre carrière. Donc, faudra se préparer mentalement et physiquement et tous les aspects qu'on puisse imaginer pour essayer de battre cette équipe de Lyon qui revient très fort. Malheureusement pour nous, au meilleur des moments pour eux, mais voilà, il va falloir sortir les bouchées doubles et être présent à l'occasion et voilà, essayer de jouer notre coup à fond.
Pourquoi pas, tu vas retrouver Alexandre Lacazette avec qui tu as été en espoir aussi. Ce sera un petit moment sympa, ouais, au niveau personnel. Quelles sont les raisons d'y croire côté Valenciennes alors ?
Qu'on n'a rien à jouer. On n'a rien à perdre, pardon. Excusez-moi, il y a une grosse différence. qu'on a rien à perdre, on n'a rien à perdre. Je pense que, comme j'ai dit, nous on joue notre saison là-dessus, entre guillemets. Et c'est un match pour nous. Je pense que si je vais dire aux joueurs que s'ils n'ont pas la dalle sur un match comme ça, alors autant arrêter sa carrière tout de suite et faire autre chose ou faire un autre sport. Mais voilà, je pense qu'on n'a rien à perdre. Et je pense qu'il faudra tout lâcher sur ce match-là et voilà, jouer les 90 minutes vraiment à fond et essayer d'obtenir un exploit pour une belle finale à Lille, chez nos voisins, qui serait extraordinaire pour tout le monde.
Ça, c'est sûr. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde cette saison compliquée pour Valenciennes, vous avez été capable quand même d'accrocher les meilleures équipes de Ligue 2. Donc, pourquoi pas aller faire un petit exploit.
À chaque fois que c'était des gros, on a plutôt pas mal réussi. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est pour moi, c'est un match où il faut qu'ils prennent conscience qu'ils l'auront peut-être pas deux fois dans leur carrière et que ça reste 11 humains en face de nous. Et voilà, tout est possible dans le football. Quand on voit Rouen qui avait éliminé Monaco, pourquoi pas Valenciennes-Lyon?
Voilà, Lyon-Valenciennes à venir en demi-finale de la Coupe. Vous allez suivre ça sur Beansport, évidemment. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir partagé ces matchs, ces souvenirs et ces moments de vie avec nous.
Avec plaisir, un grand merci à toi, Darren, et à l'équipe de Bein. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour l'accueil ici à Valenciennes. On te souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir aussi, évidemment. Merci à vous de nous avoir écoutés, chers auditeurs. Si notre podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis, en parler sur vos réseaux sociaux et sur la plateforme où vous nous écoutez. Et n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles pendant que vous y êtes. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode de Les Matchs de ma vie. Bye bye.
Merci.